Bien, bonsoir à tous. Et merci d'être là nombreux au rendez-vous que nous vous proposons, mon ami Jean-Philippe Laramindi et moi, puisqu'autant vous dire les choses carrément, nous sommes amis. Voilà, depuis un certain temps, nous nous sommes connus, moi, dans une grande maison qui était Sud-Ouest, auprès d'un homme qu'on a, lui et moi, beaucoup aimé et apprécié, Jean-François Lemoyne, puisque j'ai passé très longtemps dans cette grande maison, mais il y a une vie après. Et les vies après permettent justement de continuer à se voir, parler de nos métiers et même de s'accompagner mutuellement dans des réflexions. Et Jean-Philippe m'accompagne dans celle que je mène à la tête d'une petite entreprise qui s'appelle AkiPress et qui produit un journal en ligne qui s'appelle Aki.fr, qui se développe gentiment à Bordeaux et en Aquitaine. J'ai fait la promo, ça a été très court. Voilà, nous sommes surtout là pour évoquer un livre que, nonobstant l'amitié qui me lie à Jean-Philippe, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai dit, je l'ai écrit d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que en 150 pages, ce qui est toujours une performance, surtout que le format n'est pas très 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 grand, le caractère est très lisible, en 150 pages, Jean-Philippe est revenu sur la crise, celle qui a surgi aux États-Unis, mais qui a des racines. Et non seulement il est revenu sur la crise de façon didactique, c'est-à-dire que quand on sort de la lecture de ce livre, on a l'impression d'avoir compris des choses qu'on n'avait pas encore comprises, ou en tout cas de tirer des fils entre des événements. Et aussi et surtout parce que l'homme qui a appris la théologie au point d'en être un licencié brillant, eh bien, il a cherché dans les Écritures les racines de ce qu'il a appelé la cupidité, de ce qu'il appelle la cupidité, dont justement vous avez vu qu'elle était le sous-titre de son livre. Tu ne convoiteras pas, là on sent vraiment la culture qui est la sienne, mais de la cupidité dans la crise actuelle. Alors on est là aujourd'hui d'abord pour écouter Jean-Philippe et évidemment pour un temps de conférence où il donnera ses éclairages, ses analyses de la situation passée et sans doute quelques perspectives. Et puis ensuite viendra le temps, comme d'habitude, des échanges avec vous-même, puis de la signature de son ouvrage pour évidemment celles et ceux qui le souhaiteraient. Alors Jean-Philippe, je te lance immédiatement autour de ce double parrainage que tu as choisi pour aborder ce livre. Celui de Benoît XVI et de l'encyclique qu'il a écrite, qu'il a produite, oui, en 2009, et du prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui a publié, lui, Le triomphe de la cupidité. Tu avais donc des pères qui étaient extrêmement renommés, mais en tout cas, ce qui avait le mérite immédiatement d'introduire ton ambition, et en la plaçant aussi, et on va le voir à travers ensuite ce que tu nous expliqueras, à travers le temps que tu passes à nous éclairer sur le poids de l'histoire, des Écritures, de la doctrine sociale de l'Église, ses évolutions notamment, ce qui fait que ce livre, eh bien, il nous éclaire sur le présent, sur le passé, le présent, et en même temps nous cultive grandement, ce qui est formidable. Voilà. Donc, Jean-Philippe, ce double parrainage, pourquoi ?
Oui, merci Joël. Oui, merci à tous d'être venus passer un moment ici sur ce sujet-là. Oui, ce double parrainage est intéressant parce que ce sont deux personnages de nature, si j'ose m'exprimer ainsi, très différente quand même, puisque d'un côté il y a un prix Nobel d'économie et de l'autre côté il y a un pape. Et face à cette crise, donc c'est en 2009, tous les deux ont utilisé le même mot pour indiquer une des ou la cause profonde de la crise selon eux. La cause morale de cette crise, c'est la cupidité. Alors, qu'est-ce que c'est la cupidité ? Sans rentrer dans des détails très compliqués, il y a d'un côté la recherche du gain, qui est une chose non seulement normale, mais qui est positive, puisqu'elle a conduit à un développement économique, culturel, etc. Donc la recherche du gain en soi, c'est quelque chose, disons, de bien. Ce qui n'est pas bien, ce qui est moins bien, c'est le dérèglement de cette recherche. C'est les excès. Et donc j'appelle cupidité l'excès de la recherche, un amour excessif de l'argent, un amour excessif du gain, un amour excessif des richesses. Voilà. Et donc dans une première partie, j'essaye de montrer par des exemples comment pendant depuis d'ailleurs les années 80, par une montée croissante, 90, 2000, on a vu une progression générale de cette cupidité. Et donc il y a des exemples. Voilà. Puis j'ai voulu creuser un peu la question. Et il y a, au fond, parmi les idées qui nous structurent, nous, civilisation occidentale, il y a deux grands courants. Il y a le courant philosophique, à partir de Socrate, de Platon et d'Aristote, et puis tout ce qui suit, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a le courant, je ne sais comment l'appeler, biblique, religieux, ou sans discontinuité. C'est ça qui est important. La pensée continue depuis depuis Isaïe, Jérémie, tous ces prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à la doctrine sociale de l'Église, si on en reste à la partie économique et sociale. Ce qu'on entend dire aujourd'hui par Rome, par exemple, c'est l'enfant, le petit enfant, l'arrière-petit-enfant de toute cette pensée qui s'est accumulée, enrichie au fil des ans. Donc, il m'a paru, puisque je faisais des études de théologie, comme tu as eu la gentillesse de le rappeler, il m'a paru assez logique de voir qu'est-ce qu'on pouvait retirer de cette, de tout ce courant historique. Voilà. Sachant que ce courant historique est, ce courant historique religieux, est illuminé, si j'ose dire, par Jésus de Nazareth. Lorsque dans les Béatitudes, il dit il dit beaucoup de choses, mais il dit en particulier « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », c'est du lourd, si j'ose dire, parce qu'il est venu ici, pour les chrétiens, sur terre, pour annoncer le royaume des dieux. Or, il dit « Ce sont les pauvres en esprit qui iront dans le royaume des dieux ». Or, un cupide, qu'est-ce que c'est ? C'est précisément le contraire du pauvre en esprit. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Il a dit d'autres choses énormément sur la pauvreté. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comme le pape François, aujourd'hui, retrouve ses origines assez fondamentales de Jésus, son attitude face à la pauvreté, qui est très caractéristique de la religion chrétienne. En tout cas, ça devrait l'être. Ce n'est pas toujours, mais ça devrait l'être. Et le pape François y accorde une attention toute particulière. Voilà, ça, c'est donc le parcours. Et alors, après, je me suis dit, parce qu'étant un homme d'affaires, par ailleurs, tout ça, c'est très bien. C'est très mal, la cupidité. Tout le monde le dit, mais la cupidité, c'est ce vice qui est tapis dans l'homme, qui demande qu'à ressortir, qui est toujours là. Et la question, c'est, une fois l'avoir dénoncé, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement, quoi, dans le domaine économique. Voilà. Et il se passe que, moi je suis basque, je suis né à Saint-Jean-de-Luz, et de l'autre côté de la frontière, il y a une expérience intéressante que j'ai étudiée, qui est l'expérience de la coopérative de Mondragon, où on aura peut-être l'occasion de revenir, oui, qui est une énorme chose quand même. Il y a 83 000 travailleurs associés, et dans laquelle la cupidité est sinon bannie, du moins totalement maîtrisée, et sans que ça entraîne des conséquences, même si parfois il y a des difficultés, mais des conséquences négatives sur la compétitivité des entreprises. Voilà, donc Voilà, tout ça, ça est mis dans un livre.
Nous allons y revenir, Jean-Philippe, mais revenons un peu aux racines contemporaines de la crise et notamment à cette extraordinaire propension à l'argent facile qui a surgi dans les années que tu évoquais et qui a pris des formes spectaculaires, enfin quelques-unes que tu évoques dans ton livre, la faillite Madoff, le patron de la Fed, Alan Greenspan, qui ouvre les vannes des liquidités, les Américains qui s'endettent à mourir pour avoir leur maison, et on a vu les images, aujourd'hui nous ont renvoyé des images de détresse extraordinaire. Et cet extraordinaire emballement, il a aussi une composante historique, quoi. Enfin, faut s'en souvenir. 89, le mur de Berlin s'effondre. C'est, paraît-il, la fin de l'histoire. Et désormais, l'argent est roi.
Oui. Il y a effectivement il y a une décade, là, un peu fondamentale, qui explique beaucoup de la situation actuelle. Ça commence en 1979 avec l'élection de Margaret Thatcher en Angleterre. Ça se continue l'année suivante avec celle de Ronald Reagan aux États-Unis. Il y a Alan Greenspan qui est nommé comme président de la Banque centrale américaine. Ça doit être en 86-87. Et en 89, le mur de Berlin tombe. Et c'est là où cet historien japonais, enfin américain, mais d'origine japonaise, fait cet article qui a un retentissement énorme en disant « c'est la fin de l'histoire ». La fin de l'histoire parce qu'au fond, on a trouvé le régime parfait pour l'homme. C'est la démocratie politique et c'est la démocratie économique. Et la démocratie économique, c'est le libéralisme. Voilà. Et maintenant qu'on a trouvé ça, eh bien, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien à raconter. Voilà. Et alors, ça se traduit économiquement par deux choses, effectivement, la dérégulation. Hein. Donc, l'équipe américaine, il a eu de cesse, les Anglais, tout ça, de déréguler.
Je t'interromps, que la crise de 1929 avait amené à créer des outils qui permettaient, a priori, d'éviter des crises de type de celles qu'on allait connaître.
De contrôler, voilà. Donc, délibération et apport massif d'argent. Voilà. Mais avec une idéologie derrière tout ça, une forte idéologie, qui est l'idéologie de la main invisible. C'est l'idéologie d'Adam Smith. Alors, la main invisible, c'est extraordinaire parce que bon, c'est pas Adam Smith a été beaucoup plus complexe, c'est la doctrine d'Adam Smith revue par Greenspan et simplifiée. Hein. Mais ça dit, c'est magique parce que ça transforme les vices individuels en vertus générales. C'est-à-dire que chacun peut poursuivre toute son avidité égoïste, ne se préoccuper pas des autres, il cherche à gagner le plus d'argent possible. Mais ce faisant, il contribue au bien-être général grâce à la main invisible qui arrange tout ça. Et donc, on n'a plus besoin de l'éthique à la limite. Ouais. Et ça a été une doctrine, d'ailleurs, il le rappelle à chacune de ses conférences, parce que Greenspan, qui est quand même un des très grands responsables de la crise actuelle, continue quand même à être extraordinairement rémunéré par des conférences où il raconte son expérience. Il ne reconnaît pas son échec totalement. Mais voilà, il parle de la main invisible. Ça, c'est la doctrine sous-jacente. Voilà. Alors, il y a eu, bon, on peut parler des subprimes, il y a eu des exemples, si vous voulez. Par exemple, en 2007, il y a eu un monsieur qui s'appelait Paulson, qui n'avait rien à voir avec le secrétaire au Trésor américain, qui portait le même nom, Paulson, qui était un gérant de fonds, Hedge. Il a gagné, lui, en une année, 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, en une année. Des centaines de gens ont gagné 300, 500 millions de dollars. Hein, voilà. Les écarts entre les moins bien payés et les mieux payés d'une entreprise qui, historiquement, se sont maintenus pendant longtemps de 1 à 30, grosso modo. Hein, 30 pour le PDG, 1 pour le SMICAR, à peu près. Je vois qu'il y a des hommes d'affaires là qui font les calculs, mais voilà. Et eh bien, ça a explosé et les gens commençaient à gagner 100 fois ce que gagnaient plus, 500 fois, 1000 fois, etc. Quoi. Il n'y a plus de bornes finalement. Voilà. Et non seulement il n'y a plus de bornes, mais le fait même de gagner beaucoup d'argent était, et toujours d'ailleurs un peu quand même, le critère de réussite et de respect quand même dans les entreprises. Voilà.
Et puis il y a l'effondrement de cette grande banque, qui en Lehman Brothers, qui annonce là le cataclysme, enfin qui ne fait qu'amplifier le cataclysme, mais qui mobilise les dirigeants occidentaux qui tout d'un coup se disent, si nous ne nous précipitons pas pour sauver le système, il s'effondre et avec lui l'emploi, l'économie.
C'est le 15 septembre donc, 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers dont on parle un peu. Vous savez pourquoi on en parle beaucoup aussi? C'est parce que c'est la plus grosse faillite jamais enregistrée dans l'histoire. Hein. C'est 400 de mémoire milliards de dollars de trous. 400 milliards de dollars de trous. Le président d'aujourd'hui, qui n'est pas inquiété vraiment par la justice, continue à dire qu'il a été la victime de forces obscures qu'il ne comprend pas toujours et que cette affaire, finalement, aurait pu continuer et faire des profits, etc. Voilà. Oui. C'est d'ailleurs un des éléments que je relève dans mon livre. Aucun des grands responsables de cette crise n'a été poursuivi par la justice, vraiment. Ils ont tous transigé. Ni le patron de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, tous ces gens-là sont passés finalement assez bien à travers les gouttes. Bon. Il y a Goldman Sachs, par exemple, c'est assez caractéristique, a trouvé un Français, d'ailleurs, Touré, qui avait conçu ces produits toxiques. Parce que pour construire ces produits toxiques, ce n'est pas si simple quand même. Il faut avoir maîtriser des algorithmes mathématiques compliqués et tout ça. Et les Français, les ingénieurs français, sont excellents là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'ingénieurs de grandes écoles françaises qui ont été à Londres, à New York, et qui ont travaillé dans ces établissements pour mettre en place ces produits toxiques. Et alors on a pris l'un d'eux, là, qui est le responsable de tout ce qu'a fait Goldman Sachs, par exemple, puisque c'était un employé de Goldman Sachs. Voilà un exemple.
Bien. Je crois qu'il serait intéressant d'évoquer, alors, évidemment, les conséquences un peu, tu l'effleures dans ton livre, mais pour la société américaine aussi, de cette situation quoi, qui a plongé beaucoup d'Américains dans la détresse.
Parce que c'est les fameux subprimes, si vous voulez. C'était donc en général des familles pauvres. Subprime, ça veut dire sous la catégorie normale de prêt. C'est-à-dire c'est des gens qui, normalement, n'auraient pas eu le droit au prêt parce que leur crédit n'était pas de bon niveau. Et alors, c'était une période où les prix de l'immobilier montaient. Donc, les banques prêtaient à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser, donc avec des taux bas, des taux très bas, mais des taux qui n'étaient pas fixes, étaient des taux indexés. Et alors, ils prêtaient 100, mettons, pour quelque chose qui valait 80. Enfin, ils pouvaient donner une garantie de 100, pour simplifier les choses. Mais très rapidement, le prix de base de l'immobilier augmentait. Et à ce moment-là, quand il y avait une garantie qui était à 120 et que le prêt était 200, le banquier appelait cette famille en disant « Est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent par hasard là ? Vous n'avez pas, vous ne voulez pas vous acheter une télé, une voiture et tout ça ?» Et hop, les gens empruntaient. Mais la garantie sous-jacente augmentant, tout était à peu près équilibré. Et à un moment donné, deux choses se sont passées. Les arbres ne montent pas au ciel, hein, donc les actifs ont commencé un tout petit peu à stagner, à baisser, les actifs immobiliers. Et en même temps, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. et les gens qui avaient les emprunteurs se sont trouvés coincés avec des difficultés à faire face aux intérêts, même impossibilité. À ce moment-là, les banques ont saisi les actifs et ont voulu les vendre. Mais comme il y avait beaucoup de banques qui saisissaient beaucoup d'actifs et qui voulaient les vendre, le prix de ces actifs baissait, etc. Et c'est ça qui a entraîné, qui est l'origine directe, si vous voulez, de la crise. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant, les banquiers qui prêtaient, ils ont voulu quand même passer le risque à d'autres. Et pour ça, ils ont construit des produits très, très sophistiqués, où personne ne comprenait grand-chose, dans lesquels ils mettaient ces prêts. Puis ils rajoutent, donc ils mettaient plusieurs prêts à plusieurs familles, ils rajoutaient d'autres produits, tout ça, ils packageaient ça, ils faisaient un produit et qu'ils revendaient, alors qu'ils faisaient, dont la qualité était garantie par les agences de notation, hein, les fameux AAA. Et donc vous aviez un produit, mettons Goldman Sachs, donc, garanti par Standard & Poor's AAA, rapportant des taux d'intérêt supérieurs à la moyenne, parce que... Voilà. Et sûr. Ça, c'était présenté à des banques françaises ou anglaises, etc., qui disaient « c'est formidable, ça c'est garanti, ça rapporte plus, etc. Voilà. » Et donc, le mal s'est réparti comme ça dans le monde. Et des banques, des quantités d'établissements financiers se sont trouvées détenir non seulement des établissements financiers, mais même des villes qui, à travers des banques spécialisées dans le crédit aux communes et tout ça, se sont trouvées avec des produits toxiques comme ça, et surtout des produits dont personne ne maîtrisait le contenu. On ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. Ni l'acheteur, ni le vendeur ne savaient qu'il y avait dedans. La seule chose qu'ils savaient... Le vendeur, il savait qu'il allait avoir une commission sur ceux qui vendaient, et l'acheteur, eh ben, il se disait qu'il allait avoir un taux d'intérêt important. Voilà. Bon, je caricature, mais naturellement,
non, mais
je résume.
Ça illustre bien.
C'est un peu ça, quand même, au fond.
La philosophie qui est au cœur de ta démonstration. Voilà. Quand même, revenons un instant sur la réaction des États, qui peut peser aujourd'hui très fort aussi dans leur situation, et de l'Europe notamment, qui a pris la main là, sur cette situation. Il faut quand même un moment où l'Europe, on la jette très facilement avec le bébé avec l'eau du bain. Il faut peut-être se dire que si l'Europe n'avait pas été là pour aller au-devant des États-Unis, je pense notamment à nos dirigeants, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité.
Alors, je ne traite pas vraiment ce problème.
Mais tu l'évoques.
Mais je l'évoque, mais rappelez-vous quand même, il est bon de le faire quand même en ce moment. Je crois que c'est en 2009, il y a deux personnes, face à la panique quand même incroyable qu'il y avait, je vous rappelle, à fin 2008, début 2009, il y a eu deux chefs d'État qui ont été vraiment à la hauteur des circonstances. C'est Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas particulièrement sarkozien, mais il faut lui rendre hommage. Il a été à la hauteur des événements à ce moment-là, et Gordon Brown, l'anglais. Et tous les deux, avec l'Américain naturellement, Obama, mais il venait d'arriver, Obama, il ne connaissait pas bien les choses. Ce sont tous les deux, ils ont un peu sauvé le monde quand même. Je le dis parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
Oui, ils ont pris l'initiative
pour Nicolas Sarkozy.
Très fortement.
Ils ont créé le groupe des G20, ils ont rassemblé les choses, ils ont vraiment pris des mesures très fortes. Très fort.
Voilà, bien. Voilà un survol de la crise, de quelques-uns de ces temps forts, de ce qu'il rend compte de sa nature profonde. Et revenons aux racines, quoi, parce que les racines, ce n'est pas l'aspect le moins passionnant du livre que tu as écrit. Depuis les prophètes, depuis Ézéchiel jusqu'à saint Thomas d'Aquin, tu as fait le grand pont et tu expliques la genèse de la cupidité. Voilà.
Oui. Même avant, si tu permets.
Même avant.
Oui, parce que partir des prophètes, c'est un peu récent.
Un peu récent, oui. Mais... On va aller tout à fait avant.
Le mot hébreu pour cupidité, c'est chamad. Et chamad, ça veut dire à la fois un peu trouver quelque chose de désirable et vouloir le prendre pour soi-même. Il y a donc, on constate quelque chose, on a un désir et on veut le prendre. Et la première occurrence de ça, c'est le célèbre passage de la chute dans la Bible. Parce que fait Ève ? Elle voit une pomme, elle la trouve désirable, elle la prend, la mange et la donne à Adam. C'est un exemple de la cupidité, ça. Et c'est pour ça que quand on dit que la cupidité est la racine de tous les maux, il y a là-dedans quelque chose, voilà, qui remonte vraiment très loin et très très profond.
J'ai eu du mal avec la pomme et Ève quand j'ai lu ton livre. Je trouvais que c'était beau, enfin je sais pas.
Ouais, bon.
Mais enfin c'est bon.
Mais en fait c'est à cause de ça qu'on est, qu'on meurt, qu'on souffre et tout ça quand
et
même.
Eh oui.
Hein.
Bon.
Voilà. Donc il y a eu des dénonciations des prophètes. Là tu parlais, là Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, etc.
J'ai la citation d'Ézéchiel que j'avais trouvée formidable. Les chefs cupides sont comme des loups qui déchirent une proie, prêts à faire périr des gens pour en tirer profit.
Oui, oui.
Bah, c'est puissant hein, comme réflexion.
Voilà, et ils disent que le cupide est indigne d'être chef, que la cupidité n'est jamais rassasiée, que le cupide détourne son regard des faibles et des malades, etc. etc. quoi, hein. Voilà. Donc, dénonciation qui parcourt toute la Bible, si vous voulez. Hein. Avec donc cette parenthèse et ce summum plutôt que du Christ dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, où les attaques, si vous voulez, contre les riches sont légion, quoi. Il est plus difficile à un riche d'atteindre le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc., etc. Enfin, je ne vais pas revenir. Il y a, pour ceux qui sont des chrétiens, ils voient ce dont je veux parler, quoi. Hein. Et alors, il y a là quelque chose de très important, parce que le critère même, si vous voulez, du rapport avec Dieu et avec le salut éternel, selon, là je lis là, Matthieu 25, il dit « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Entre parenthèses d'ailleurs, vous notez que Jésus ne fait pas de morale là. Entre parenthèses, il ne parle pas de mariage pour tous et de choses comme ça. C'est une parenthèse. Il dit le critère, vraiment, c'est quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et là, vous irez, vous serez reçus dans le royaume des cieux. Hein? Je vous invite, je ne suis pas un curé, ce n'est pas mon rôle, mais il faut réfléchir à ça parce que c'est un peu la clé, je crois, d'un comportement chrétien et qui est parfaitement illustré en ce moment par le pape François. Voilà. Et pourquoi ça? Pourquoi cette préférence pour les pauvres? Parce qu'au fond, le Christ a été lui-même pauvre. Et lorsqu'il s'est dépouillé, je fais un peu de théologie, mais pas longtemps, et quand, lorsqu'il s'est dépouillé de sa condition divine pour devenir un homme, il s'est totalement appauvri. Voyez, et donc, cette condamnation de la pauvreté va extrêmement loin. Je passe. Thomas d'Aquin, au XIIe siècle, qualifie la cupidité, l'avarice, mais c'est la même chose. L'avarice, c'est avaricia en latin, mais ça veut dire cupidité, comme un péché capital, un des péchés capitaux. Alors, juste une remarque en passant, péché capital ne veut pas nécessairement dire péché, quoi. Ben, le meurtre, par exemple, tout le monde reconnaît que c'est un péché grave. Le meurtre n'est pas un péché capital. Le péché le capital, c'est plutôt le vice capital. Ce sont des vices qui entraînent. Ce sont des vices, ça vient que de caput, c'est de tête. C'est des vices mères un peu, d'où se déduisent d'autres. Voilà. Voilà. Et puis, il y a toute la doctrine sociale de l'Église qui veut mettre au fond l'homme, la dignité de l'homme au centre de l'action, si vous voulez, hein, le respect de l'homme, toute cette philosophie que l'on retrouve, voilà, ça dérive directement de cette façon, par l'Église, de concevoir la cupidité. Voilà, en gros.
Voilà, ce grand voyage qu'on a fait, que tu as fait en t'appuyant aussi sur la Bible et sur les Écritures, t'a amené presque naturellement à Mondragon et à une réponse Car en effet, le constat que tu fais, qui est un constat redoutable pour la cupidité, pour l'avarice, appeler des propositions, une alternative au sein même de notre de ce monde qu'on voudrait fini et dont on se rend compte qu'il faut le réinventer. Mmh. Et donc quand tu évoques l'exemple de Mondragon, il y a une réponse là aussi qui emprunte évidemment, puisque le fondateur de Mondragon était un jeune prêtre basque. Mondragon, qui reste toujours, comme tu l'as dit, une coopérative une somme de coopératives puissantes qui, on va le voir, a quand même des difficultés dans le système actuel.
Mmh. Oui, Mondragon a été créé directement par un jeune vicaire du Pays basque espagnol, dans une vallée complètement loin de tout, au moment de la guerre civile, où les gens n'avaient rien, etc. Et il a créé une école de technique, et puis il a appris aux gens à fabriquer des réchauds, parce qu'il leur manquait des réchauds, etc. Et à partir de là, s'est construit ce groupe, qui est composé en fait d'une centaine de coopératives différentes. Une coopérative, par définition, appartient aux gens qui y travaillent. Donc là, il y a une centaine de coopératives qui sont dans des domaines financiers, dans des domaines de la distribution. Ils ont le numéro 2-3 de la distribution en Espagne, qui s'appelle Eroski. Et surtout dans le domaine industriel, puisqu'il y a au Pays basque espagnol une vieille tradition à partir du fer de Biscaye, si vous voulez, de travail de fer de l'acier et donc le travail industriel. Voilà. Et donc...
Mondragon a essaimé aussi, hein, dans le monde, puisqu'il y a des...
Non, Mondragon a des participations partout dans le monde. Oui, ils sont dans 110... Mais justement, Mondragon a eu du mal à essaimer... Son modèle en dehors de l'Espagne. Hein. On y reviendra sans doute à propos de Fagor. Mais il y a une unité. Alors, il y a une université aussi, hein, de 3000 personnes. Et il y a donc toutes ces coopératives ont décidé de mettre des choses en commun. C'est ça qu'est la corporation Mondragon, qui est une émanation au fond des coopérations de base. Et ils mettent en commun la recherche et le développement, et le développement international notamment. Voilà. Et alors, les principales caractéristiques, quoi, c'est que donc, c'est un homme, une voix. Hein. Les décisions sont prises à la majorité des travailleurs associés. Pour devenir travailleur associé, il faut passer 6 mois, 1 an pour bien comprendre l'esprit, être accepté par les autres et tout ça. Il faut commencer par investir 1 an de son salaire. Hein? Alors en général, les gens qui rentrent n'ont pas d'argent. Et donc il y a la banque, la coopérative qui vous prête et qui vous rembourse sur 3 ou 5 ans après. Donc vous mettez alors. Vous décidez de la rémunération de tout le monde, de la grille de rémunération, y compris des patrons. Et en général, l'écart entre le moins bien payé et le mieux payé, c'est de 1 à 6. Je vous rappelle le 1 à 30 dont je parlais, qui est la norme en France, qui est une norme à peu près acceptable, si vous voulez, par tout le monde ici. Donc là, c'est 1 à 6. Et je me suis amusé à faire un petit calcul, là, que je m'excuse pour ceux qui ont lu mon livre, là, mais j'ai fait la comparaison avec le président à l'époque de Carrefour. Carrefour, ça doit être à peu près 3 ou 4 fois la taille d'Eroski. C'est donc des problèmes de même nature, même s'ils sont... Et si on comptait tout, retraite, chapeau, les parachutes, tout ça, le patron de... C'est pas celui actuel. Hein, le patron de Carrefour gagnait 600 fois ce que gagnait la personne la moins bien payée de Carrefour. Voilà. Et Eroski, c'est 6 fois. Et donc, lorsqu'ils décident ensemble de réagir à des choses qui vont mal... tout le monde est vraiment dans le même bateau. Voilà. Et lorsqu'il y a eu la crise en 2008, ils ont pris très vite la mesure du problème, hein, parce que pendant longtemps, les dirigeants de nos pays ont dit c'est conjoncturel, ça va s'arranger et tout ça. Eux, ils ont fait accepter des baisses de salaire, par exemple, de rémunération, parce qu'il n'y a pas de salaire là-bas. Hein. Un travailleur associé, il est associé aux bénéfices. Hein. S'il n'y a pas de bénéfices, il n'est pas payé. Alors, il a des avances sur bénéfices, hein, donc il faut espérer qu'à la fin, il y a des bénéfices. Alors, comme quand même il y a des années où ça marche bien, on fait des réserves, hein, ce qui permet de payer des avances au moins. Donc, en gros, ils ont un peu l'équivalent du salaire, mais quand même, il faut qu'ils fassent des bénéfices. Très important, ça. Et ils peuvent compter sur personne, puisque ils sont propriétaires, ils ne peuvent pas faire d'augmentation de capital par des fonds de capital. Ce n'est pas possible, ça. C'est d'ailleurs une des faiblesses du groupe. Mais enfin, pour vous donner une idée, donc il y a aujourd'hui, il y a 83 000 personnes à Mondragon, 83 000, dont à peu près, je cite les chiffres de mémoire, hein, je ne les ai pas revus, mais peut-être 60 000 en Espagne et 40 ou 50 000 au Pays Basque. Hein, à l'origine, dans une vallée entre Saint-Sébastien et Bilbao, totalement paumée, et dans lequel s'est construit des usines. Alors maintenant, il y a des autoroutes et tout ça. C'est complètement fou quand même. Hein. Quand vous venez du Pays basque français, là, tranquille, paisible, les petites maisons toutes blanches et les toits rouges, vous venez là, à Mondragon, vous avez un choc quand même. C'est la Ruhr, quoi, un peu. Vous voyez. Et voilà, donc il y a 83 000 personnes. Mais il y a d'associés, de travailleurs associés dans l'industrie, ils sont plus de 80%. Hein. Les autres qui ne sont pas travailleurs associés, c'est parce qu'ils sont en train de devenir, hein, ou bien à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, le modèle, précisément, n'a pas pu être transféré.
Ce qui est une des explications de l'impossibilité dans laquelle Mondragon a été de résoudre les problèmes de Fagor, ou en tout cas sollicités en France, par exemple.
Alors, c'est pas dans mon livre, mais on peut parler de Fagor, qui a défrayé la chronique là, depuis septembre-octobre, qui est, je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est la première coopérative historiquement de Mondragon. C'est celle qui fabriquait des réchauds. Hein, et qui s'est mis à fabriquer donc, des machines à laver, à la vaisselle, des grille-pains, des trucs comme ça, sous le nom de Vedette, de Dietrich. Voilà, c'est des noms que vous connaissez, quoi. Et Brandt. Il y a à peu près 7 ans, Brandt marchait mal, déjà, et Fagor, les Espagnols, ont acheté Brandt. Ça a été un événement parce que, l'acte final d'achat a été scellé par un vote de tous les travailleurs associés de Fagor qui se sont réunis. Donc, les travailleurs associés devaient être de l'ordre de 2000 à peu près. Il y a eu une énorme assemblée comme ça et ont voté. Alors, ça avait été précédé quand même par des tas de réunions à 50 où on avait expliqué les choses aux gens. Les gens avaient posé des questions, etc., etc. Donc, ça a été... Bon. Donc, ils ont acheté cette affaire. Et la crise leur a donné un coup terrible parce que l'élément déterminant du succès de Fagor, en Espagne en tout cas, c'était le boom immobilier. Parce que quand on construit des appartements, il faut mettre des machines à l'intérieur. Et donc, ça a été un âge d'or pour eux. Et donc, à partir de la crise, Brandt ne s'est jamais vraiment redressé. Au moment de l'achat, Fagor a demandé au syndicat de Brandt s'ils étaient d'accord pour qu'il devienne une coopérative. Et les syndicats ont dit non. Nous, on est salariés, on reste salariés. Bon, il faut dire qu'à Mondragon, il n'y a pas de syndicat. Hein. Il n'y a pas de syndicat parce qu'il n'y a pas d'antagonisme capital-travail, puisque c'est la même chose. Et donc, voilà. Alors, ils élisent des gens qui s'occupent des problèmes sociaux, naturellement, mais il n'y a pas de syndicat. Donc, Brandt est resté salarié. Il faut dire aussi que devenir associé, par exemple pour Brandt, salarié français, ça aurait voulu dire qu'ils investissent leur salaire annuel quand même dans la boîte. Alors, je pense que ça a fait reculer beaucoup de gens. Entre parenthèses, les salaires annuels dont je parle, c'est les salaires des nouveaux qui rentrent. Donc, c'est des petits salaires. En fait, c'est quand même, c'est 12 à 15 000 euros quand même que celui qui rentre dans Mondragon doit mettre, doit payer. Bref, alors ce qui se passe, c'est que Mondragon, tout le groupe a été mal. Et bon, je les connais un peu, donc j'ai appelé pour savoir comment ça s'était passé. Donc il y a eu, en mars-avril, un apport par les autres coopératives de 70 millions. Hein? Parce que vous avez donc 100 coopératives, il y en a une qui va mal. Elle n'a pas les moyens d'aller sur le marché pour trouver des fonds propres. Les banquiers, très vite, arrêtent de lui faire du crédit puisqu'elle va mal. D'où est-ce qu'elle trouve son argent? Alors, elle va voir la corporation de Mondragon et elle dit, voilà, on a besoin d'argent, mais c'est transitoire, provisoire. C'est ce que disent en général les gens qui ont besoin d'argent. D'ailleurs, j'ai remarqué, ça va s'arranger, mais bon, on en a besoin là. Donc, ils présentent un plan à un comité qui réunit les dirigeants des autres coopératives. Les autres coopératives qui, eux, ont leurs propres besoins, puisqu'ils ont leur propre business et tout ça. Mais ils ont un sens de l'appartenance à la même coopérative, au même groupe de coopératives. Donc, ils ont discuté tout ça et ils ont décidé de mettre 70 millions d'euros en mars-avril de 2013. Le gouvernement basque a remis 50 millions, donc il y a eu 110 ou 120 millions qui ont été apportés au groupe d'euros quand même. C'est un groupe qui fait à peu près 5 800 travailleurs en tout, dont un tiers qui est composé uniquement de travailleurs associés en Espagne, un tiers en France, il y a 1 800 en France, et il y a 1 800 en Pologne, en gros, un tiers, un tiers, un tiers. Et en octobre, Fagor a demandé une nouvelle réunion des autres coopérateurs et leur a dit ben, « ça suffit pas ». Mais on a un plan de redressement et tout ça, il faut, je ne sais pas combien, il faut de l'argent, tout ça. Et à ce moment-là, les autres ont dit, on ne peut pas, on ne peut pas donner l'argent, car si on donne l'argent, c'est notre propre activité, nous, qui en subira les conséquences, parce qu'eux aussi, ils sont en crise et tout ça, alors ça va plus ou moins, mais bon. Et donc, la réponse a été niette. Très vite, ils ont déposé le bilan. Donc, ils ont déposé le bilan en Espagne, ils ont déposé le bilan en France, ils ont déposé le bilan en Pologne. Et en France, il y a des commandes. Le problème, c'est que ça manque de cash. Donc, ils ne peuvent pas acheter des matières premières, ils ne peuvent pas fabriquer les produits, alors qu'ils ont des commandes et tout ça. Voilà. Alors, le problème est en train d'être réglé pays par pays. Hein. Pour Fagor, les travailleurs associés de Fagor ont perdu leur mise, hein, ils sont ratiboisés, mais les autres coopératives leur trouvent du travail. Il y a des mises à retraite anticipées un peu, et puis il y a des gens qui sont reformés, tout ça. Enfin, le problème social, en gros, il est réglé en Espagne. En France, on a Montebourg quand même, et donc, voilà, on suscite des alternatives. Et il n'est pas exclu qu'il y a un Algérien, là, qui est candidat à la reprise. Et puis, quelqu'un parce qu'ils ont une usine à Roche-sur-Yon, là, quelqu'un là-bas qui pourrait reprendre. Donc, voilà.
Hein. Il y a un dernier voilà. Petit point.
Alors, pardon. Non, mais, pardonne-moi. La question, quand même, qui se pose, c'est est-ce que le fait d'être une coopérative commence à influer là-dessus? Est-ce que si la société n'avait pas été sous forme coopérative, est-ce qu'elle s'en serait mieux sortie? Parce que quelle est la cause des problèmes? La cause des problèmes, c'est un mauvais choix économique. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de se lancer dans ce qui marche bien, c'est-à-dire le haut de gamme, genre miel, ou le bas de gamme pas cher, de faire ça, ils sont dans la moyenne. Et dans la moyenne, c'est le secteur qui souffre. Et donc, il y a quand même un choix économique, stratégique, tel que quelle que soit la forme coopérative ou non, cette affaire était devenue invivable, invivable économiquement. Voilà. Donc ça, le côté coopératif, ça a été soutenu, ça a été soutenu, et à un moment donné, ils ont dit on peut plus.
Et le côté coopératif, c'est aussi le travailleur associé dont tu dis dans ton livre que on sent poindre la remise, en tout cas partielle, en question, moindre adhésion que ce fut le cas. À l'époque pionnière de la création de Mondragon.
Oui, parce que Mondragon date de 1956, et donc il y a eu une première génération de pionniers, il y a eu ensuite une deuxième génération. Maintenant, les pionniers, beaucoup sont en train de disparaître et tout ça. Et là, donc, la troisième génération qui est aux commandes, ou qui arrive en tout cas, elle a un peu l'habitude, elle a toujours connu Mondragon, elle pense que c'est naturel, que voilà, et donc ils sentent qu'il y a une moindre présence, par exemple aux réunions, voilà, et donc c'est un de leurs soucis. Un autre de leurs soucis, c'est de garder les gens de qualité, parce que c'est très bien de payer les patrons six fois plus que celui qui est le moins bien payé. Mais quand ceux qui sont payés six fois plus peuvent gagner cinq fois plus que ceux qui sont payés ailleurs, pourquoi ils restent ? Une question. Et que j'ai posée au directeur international de Mondragon, qui m'a dit, tiens, ça tombe bien, on m'a proposé cinq fois ce que je gagne là, mais il faut que j'aille à Madrid, je m'installe avec ma famille et tout ça. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma famille, voilà, je peux gagner cinq fois plus. Il est directeur international de Mondragon, donc il est quand même dans la frange qui gagne beaucoup à Mondragon. Et toute sa famille a dit, pas question qu'on parte. Pas question qu'on parte. Et pour ça, pour comprendre ça, il faut connaître un peu la culture de voilà espagnol et basque espagnol voilà, ils font tous partie de groupes de chants, de machins de cuisine, ils ont une vie sociale très importante, ils prennent des tapas avec leurs copains, ils ont tout ça. Et voilà, ils voulaient pas quitter cet environnement là donc ça leur permet de garder les bons, voilà, alors qu'il est sous paye d'une manière incroyable.
Donc la chanson et les tapas plutôt que la cupidité. Merci Jean-Philippe, merci à vous.